Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr. Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast qui est désormais intégrée à La Relève, l'agence food créative que j'ai cofondée en 2020, spécialisée dans les projets culinaires, les partenariats food et le management de chefs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Paul-Henri Bayard du restaurant Taverna.
Je pense qu'aujourd'hui, dans un resto, il faut pas penser, enfin, si, il y a des restos qui ne vont faire que de la super cuisine, mais bon, c'est vraiment un type de marché et tout. Moi, je suis pas sur ce créneau-là. Moi, je suis sur un créneau où il faut que le lieu soit sympa, bonne ambiance, un joli packaging, une bonne cuisine aussi, parce que si c'est pas bon, ça sert à rien. Je pense que voilà, il faut que quand on ouvre la porte du resto, il faut que la musique elle soit cool, il faut que les gens soient, le staff soit poli, bien habillé, que ce soit joli, que les plats soient jolis, que les assiettes soient jolies, enfin que faut que tout soit sympa quoi.
Les coups de cœur restaurant, ce n'est pas si souvent que ça arrive, et Taverna en est un. Paul-Henri Bayard, reconverti avec brio en cuisinier après une carrière dans la finance, y délivre des assiettes simples en apparence, mais qui font mouche, et surtout sentir qu'il se passe quelque chose en cuisine. Et puis Taverna, ce n'est pas seulement la food, c'est aussi et surtout un lieu habité, réfléchi, travaillé dans sa globalité, avec un supplément d'âme, certes de son temps, mais qui est bel et bien présent. Avec Paul-Henri, nous avons parlé de merchandising, de pita frites, et de Méditerranée, cette terre qui l'inspire encore et encore. Bonne écoute. Bonjour Paul-Henri.
Bonjour Julie.
J'ai découvert ton restaurant cet automne, un jour pluvieux, venteux, un peu comme aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était un vrai rayon de soleil. Je savais pas trop à quoi m'attendre, on va dire, même si ça avait l'air plutôt sympa, mais voilà. J'ai été assez, c'est vrai que ça a été un coup de cœur et j'ai été assez, surprise, mais en tout cas, de ce que j'ai découvert dans les assiettes, j'ai trouvé que c'était simple et en même temps, travailler, on sentait qu'il y avait, des choses, quoi, qu'il se passait des choses.
Merci de tous ces compliments, ça fait plaisir.
Toi, t'as passé 10 ans dans le conseil avant.
C'est ça, ouais, 10 ans dans la finance, particulièrement dans la gestion d'actifs.
Ok. Et je bossais
beaucoup, je faisais du conseil financier. En gros, mon job, c'était de faire des analyses économiques pour formuler des recommandations d'investissement pour des grands institutionnels français. Donc par exemple l'argent des salariés, donc l'épargne de des salariés de Carrefour, des groupes comme ça quoi. Et donc j'aimais bien ce job et tout, mais après 10 ans, j'avais envie de faire autre chose. Moi, j'ai pas mal travaillé quasiment travaillé que à l'étranger. J'ai commencé aux États-Unis, après je suis allé à Luxembourg, à Londres et en 2018, je suis rentré en France. Donc là, j'étais pour le je travaillais pour AXA. Et au bout d'un moment, j'avais envie de changer. Et c'est là où je me suis dit, le milieu de l'hospitalité m'a toujours intéressé, et la cuisine particulièrement. Mes parents avaient un hôtel, donc je connaissais un petit peu ce milieu.
Ça vient de là.
Peut-être, ouais.
Mais t'as après, grandi j'aime... dans l'hôtel ou ils avaient
oui,
un hôtel
C'était un hôtel où on habitait aussi à l'intérieur. Ouais. Enfin, c'était un mix entre un hôtel et une maison d'hôte. C'était à Valence, c'était un hôtel particulier. Donc il y avait une tour qui était un escalier. Il y avait donc, c'était en U. Il y avait les deux tiers où on habitait, un tiers où il y avait les maisons d'hôtes, donc il y avait une dizaine de chambres.
Oui, assez grand. Ouais.
Voilà. Et donc à Valence, un établissement assez haut de gamme, parce qu'en fait la plupart des clients qui venaient chez nous, c'était des clients qui allaient chez PIC.
Ok.
Enfin, pas tout le monde, mais une bonne partie. Le dîner chez PIC, c'est quand même assez onéreux et les chambres sont quand même assez chères. Et donc, souvent, les gens voulaient quand même avoir un hébergement sympa. Et comme c'était un hôtel particulier, qui date du Moyen-Âge, c'était hyper... il y a 15 ans en arrière, c'était vraiment à la mode d'avoir des chambres un peu château et tout ça. Et donc, le combo, ça s'appelait la Maison de la Prat. Maison de la Prat et PIC, ça marchait super bien, quoi.
Et donc, tu as grandi là-dedans?
J'ai grandi là-dedans. J'ai fait les travaux avec mes parents, etc. Donc, moi, j'ai connu la maison du début à la fin et tout ça. Et je sais pas, j'aimais bien recevoir les clients, les amener à la gare, faire leur petit déjeuner.
Tu faisais ça en taf d'été?
Ouais, je fais ça en boulot d'été. Et puis, je faisais ça un petit peu quand j'étais là et tout. Et dans la Drôme, il y avait pas mal de tournages de films à un moment donné, et donc on avait pas mal de gens qui venaient pour les acteurs pour des tournages ou des avant-premières, parce qu'il y avait un gros cinéma à un moment donné à Valence. Et donc j'ai vu passer plein de gens et tout ça, et c'était trop cool, parce que c'est à moitié un hôtel, moitié une maison d'hôte. Donc les gens se sentent un peu chez eux, mais un peu à l'hôtel, mais pas, enfin c'était pas impersonnel comme certains hôtels, donc c'était vraiment cool. J'ai me baigné avec les clients qui parfois étaient super connus, c'était trop marrant, on discutait et tout. Ouais.
Tu faisais des bombes à côté.
Ouais. non, franchement c'était cool.
Et donc, il n'y avait pas de restauration sur place.
Il n'y avait pas de restauration, il n'y avait que le petit déjeuner. J'aimais bien recevoir les gens, leur faire plaisir. Enfin, c'est ça que je trouvais génial en fait dans ce métier. Et donc quand j'ai décidé de me réorienter, donc c'était en 2020, j'étais jeune, je venais d'avoir un enfant, et je me disais ok, c'est bon, je risque pas grand chose, c'est plus dur de faire une reconversion plus âgée et tout ça, donc allons-y, c'est parti. Et puis si jamais ça marche pas, je pourrais toujours refaire l'autre métier, ou même allier les deux compétences et trouver un job, je sais pas, dans un groupe hôtelier, faire du F&B ou un truc comme ça. Donc je suis allé à l'école Ferrandi, j'ai postulé au programme formation continue. C'était pile pendant le Covid, donc c'était un peu compliqué les cours, parce qu'on pouvait on pouvait faire les cours en présentiel de cuisine évidemment, parce que c'était compliqué. Ouais. Mais toute la partie théorique et les stages, on pouvait pas le faire parce que les restaurants étaient fermés, tout ça.
Ouais.
Donc j'avais prévu plein de stages avant le CAP et après que j'ai eu annulé. J'étais un peu dégoûté parce que faire un stage dans un restaurant, c'est pas que apprendre la cuisine, mais c'est connaître tout ce qui gravite autour d'un restaurant, les photographes, les journalistes, c'est des crews
tout
un peu.
Hein.
Ouais, voilà. Et donc j'avais trouvé trois spots assez cool où j'aurais pu découvrir tout ça. J'avais fait plusieurs rendez-vous avec une fille qui travaille chez Chabour.
Ouais.
Donc je trouvais ça sympa. Moi j'aime bien la cuisine méditerranéenne, donc de voir un petit peu cette approche cuisine devant les clients et tout ça. Il y avait donc Caché, le restaurant Caché, et j'étais en contact avec une fille qui connaissait la chef du restaurant Mamie de Jean Humbert. Et donc elle m'avait proposé de lui en parler, que je fasse un stage découverte
là-bas.
Parce qu'elle l'avait fait et elle m'avait dit ouais, ils sont super cool et tout, donc ça me permettait de découvrir trois types de cuisine, trois écosystèmes, etc. Ça n'a pas fonctionné pour les trois, ouais. Sauf pour Caché, parce que le chef donc de Caché m'appelle, me dit bon Paul, c'est pas possible de faire le stage, mais si tu veux il y a le traiteur, parce qu'ils ont à l'époque ils avaient Caché et un traiteur, si tu veux viens, on a personne pour bosser, mais moi je vais bosser avec la patronne si ça te dit, voilà. Donc moi je dis ok, moi de toute façon il fallait que j'apprenne, fallait que je fasse, et je voulais après mon stage, après mon
théorie,
formation,
quoi.
Et voilà que je fasse
la pratique.
Donc j'arrive pour faire le traiteur, donc c'est un gros traiteur qui bossait pour des clients assez prestigieux et tout ça. Donc on envoyait des prestats, je sais pas, ça peut aller de 20 paniers à 150, 200, enfin je sais plus tout. Enfin voilà, c'était quand même assez cool. Et donc j'ai fait ça 2 mois. Donc j'ai découvert l'organisation du traiteur qui est très différente d'un restaurant parce qu'on commence très tôt. Et à 9-10 heures, il faut faire l'envoi en fait pour que ça parte dans les camions et que ça arrive chez les clients. Donc c'était assez fun de faire ça, de mettre dans les boîtes et tout, aller visiter et tout. C'était rigolo.
Et ça, c'était juste fin du Covid ou...
Ça, c'était... je pense que c'était en janvier 2021, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Et donc, je fais ça 2 mois. Et là, les restaurants réouvrent. Ou alors, il y a dû y avoir un confinement entre les deux. Et ensuite, les restaurants réouvrent. Donc, je m'entends super bien avec le chef de cachet qui bossait au traiteur, qui me dit, on va réouvrir le restaurant cachet. Est-ce que tu veux faire partie de l'équipe de réouverture et tout ça? Je dis, bah ouais, à fond. Donc, moi, je venais juste de commencer. Et je me dis, il faut que je participe à ça. Je vais apprendre un max de trucs et tout. Toujours avec l'idée en tête d'ouvrir quelque chose plus tard, parce que j'ai pas fait cette reconversion juste pour être salarié.
Ouais, t'avais quand même une idée en tête.
Oui, je voulais pas. Je voulais créer des choses, créer un business et développer, parce que j'avais une famille, un enfant. Je pouvais pas être juste salarié. On gagne pas très bien sa vie en cuisine. Je pouvais pas être juste salarié. Il fallait que je pense à.
T'avais
rapidement.
Un objectif. Ouais, voilà. Assez court moyen terme.
Ouais, voilà. Et je participe à cette réouverture, j'apprends un max de trucs, je fais tous les postes, c'est génial. Donc le chef me fait confiance et me donne des responsabilités, tout ça. Donc c'est génial. Les patrons aussi, tout ça, c'est top. J'apprends un max. Et là, ils ouvrent un deuxième restaurant qui s'appelle Amagat, le chef me propose de bosser avec lui et le chef qui va être qui va exécuter la carte en day to day, et donc là je participe à l'ouverture d'un restaurant avec le sourcing des fournisseurs. Je regarde un peu comment la cuisine elle est construite, enfin tous les aspects de création d'un restaurant, élaboration de la carte, testing, photoshoot avec des photographes, etc. Donc pour moi c'est génial, j'apprends un max, ça fait je sais pas,
c'est hyper rapide.
Comment?
En plus, c'est assez rapide, en fait,
oui.
Pour toi. De...
Ouais.
Enfin, tout a été assez vite.
Ouais, c'est en 6 mois, j'ai fait tout ça. Il fallait que j'aille vite, il fallait que j'apprenne. J'étais hyper motivé, j'arrivais super tôt. Donc, le chef était trop content parce que par rapport aux autres membres de l'équipe, moi, j'étais bouillant. voilà. Et donc j'apprends à fond. Je reste un an là-bas, je fais tous les postes et je termine un peu comme son bras droit, on va dire, même si j'avais pas tous les codes que les gens peuvent avoir parce qu'ils ont fait les écoles hôtelières et tout. Tatata. Mais bon, moi, j'avais une certaine maturité que d'autres n'avaient peut-être pas. Et donc, ça, pour ça, il aimait bien. Et au bout d'un an, je lui dis, bon, ok, j'ai fait le tour, il faut que je fasse autre chose. Et puis ma femme, elle s'est arrêtée de bosser parce qu'on avait eu notre deuxième enfant. Elle reprenait un poste chez LVMH, donc un gros truc, enfin un gros poste. Et je lui ai dit, écoute, je vais arrêter pendant 2 mois, comme ça tu vas pouvoir t'y mettre à fond et commencer sereinement. Ça fait 2 ans que tu vas bosser et tout ça. Donc je dis au chef, ok, j'arrête, mais on peut continuer à faire des trucs ensemble. Et là, je lui propose qu'on s'associe et qu'on... Lui, là, il est super bon dans la cuisine et moi, j'ai la compétence business. Et voilà. Et je lui dis, je vais trouver des missions consulting, des events et tout. Et voilà. Donc, je cherche et on trouve une première mission dans un restaurant à Marseille. Trop bien.
Pour ne pas le nommer.
Pardon.
Pour ne pas le nommer, Tuba.
Ouais, Tuba Club. Donc, on fait ça. On fait des events pour des marques de haute culture française. Que des trucs premium. On a fait aussi un pop-up en Belgique, dans la ville d'Anvers, au port, avec les grues, tout ça. C'était un concept, vraiment cool. Vraiment que des trucs pour, que des projets pour des marques sympas. Enfin, ouais, on va dire univers premium, ou des lieux qui ont une bonne notoriété, ouais. Ou une bonne image, voilà. Mais bon, pour revenir donc ça fait quoi, un an, etc. On fait ce consulting, on fait ces events, ça me forme à fond, parce que faire un event, faire cuisiner dans une autre petite cuisine et tout, machin, pour des marques ou dans des boutiques et tout, c'était très différent, donc j'apprends à fond et tout. Le consulting, c'est pareil, il faut développer des fiches techniques, former une équipe, recruter,
Toi, t'as passé du temps à Marseille aussi ?
Ouais, j'ai passé beaucoup de temps à Marseille.
T'as pas déménagé ?
Non, j'ai pas déménagé, mais en gros, un consulting, enfin, nous, les consultings qu'on a fait, c'était du travail en amont à Paris ou ailleurs pour développer la carte, penser à des idées, se renseigner et tout ça. Ensuite, on va dire 4-5 jours de tests sur place avant l'ouverture de la. Souvent, c'est des consultings
avec
que
d'un.
Ouais, ouais, avec. Ouais. Pas forcément avec les équipes, mais développer le menu, faire des tests, faire tester les plats aux clients. Plats, voilà. Okay. Et ensuite, il y a la semaine d'ouverture. Donc là, c'est vraiment former les équipes et commencer à faire les premiers services. Ensuite, on restait quelques jours pour que ça se mette en route. Et après, c'était les visites de contrôle. Ouais. Donc revenir tous les mois, 2-3 jours, okay, en fonction que tout allait bien, introduire des spéciaux, changer des choses, etc. Donc on faisait ça, donc la cuisine. Mais on proposait aussi, en fonction des clients, de travailler sur, on va dire, la direction artistique lié à la cuisine. Donc c'était l'art de la table, c'était la tenue du staff, ça pouvait être des événements ad hoc par-ci par-là pour sortir, enfin voilà. Et donc hyper cool de pas rester cantonné qu'à la cuisine, mais de pouvoir sélectionner des super assiettes, voilà. Donc
c'est ça, ce que vous avez fait sur Tuba.
Ouais, on a cherché plein de trucs, ouais, voilà, que je me suis même retrouvé à aller acheter des assiettes de l'armée française en inox, enfin des trucs comme ça. Où une fois on m'a dit mais c'est quoi cette gamelle de chien, j'ai dit tu vas voir, ça va être trop beau, fais-moi confiance. Et le truc, en fait, une fois que c'était utilisé, ça rendait trop bien, quoi. Non, mais parce que moi j'aime bien trouver des assiettes qui sont des choses de l'art de la table qui sont pas forcément genre comment on peut dire ça,
l'utilisation première, enfin,
ouais, voilà. Ouais, on a les marques connues, Jars et tout, ouais. Ça, mais c'est super cher et puis ça se casse très vite, et alors qu'il y a d'autres marques qui existent, ça coûte pas très cher et on peut en faire des trucs bien. Donc voilà,
t'aimes bien les fouiner,
ouais, voilà, ouais. Voilà. Faut chercher, même chez Decathlon, parfois il y a des trucs, la vaisselle de camping, ouais, qui marche trop trop bien, ouais. Ouais, non, c'est trop marrant, ouais. Ouais. Et c'est la mode en ce moment, enfin c'est la mode. C'est pas la mode, mais c'est ça marche fort, tout ce qui est inox, alu, etc. Ben là, enfin c'est ça, c'est de la vaisselle
de camping,
des machins.
Ou de l'armée.
Donc voilà, on fait ce consulting et après on en fait deux autres à Saint-Tropez l'année dernière. Dans deux autres restos. Donc, pour résumer, en 3 ans, avant d'ouvrir ce restaurant-là, Taverna, je bosse sur 6 ou 7 projets d'ouverture ou de réouverture de restaurant, parce que finalement, un consulting dans un lieu saisonnier, c'est une réouverture. Voilà. Donc, pour moi, c'est génial. En 3 ans, j'ouvre
ou
je réouvre. Voilà. Voilà. Donc, je me dis, avant de faire mon resto, c'est génial, quoi.
Donc,
voilà.
Quand tu ouvres Taverna, trop facile.
Non, pas trop facile, parce que c'est toujours stressant. Puis là, il y a tous les aspects qu'on fait pas d'habitude, l'admin et tout. Mais disons que ça va pas mal.
Ça a facilité, ouais, les choses.
Ouais.
T'as mis longtemps à le trouver, ça sent ?
Le lieu, j'ai mis un peu plus de 6 mois. Alors, c'est pas évident de trouver un lieu, parce que moi, je recherchais pas mal d'attributs et il n'y a jamais, en fait, tout ce qu'il faut. Il y a le budget, il y a l'extraction, il y a le lieu, est-ce qu'il y a une cave, est-ce qu'il n'y a pas de cave, les rangements, tout ça. Bon, le lieu était pas mal. C'est pas un lieu primaire, mais c'est pas une artère principale, mais c'est un secondaire, mais très proche de, par exemple, là, on n'est pas loin de chez Merci, tout ça. Enfin, à 150 mètres, donc c'est quand même assez cool. Et puis la rue Amelot, il y a un gros potentiel de développement. Je sais pas si tu es allé vers avant le cirque, tu sais, là,
oui,
où il y a,
oui,
Paperboy,
oui,
et tout ça.
Ouais,
voilà. Ben là, c'est en train de se piétoniser. Et si ça arrive par ici, mais c'est la folie. Enfin, ça sera la folie, parce que cette rue, elle est assez calme, elle est cool. Donc voilà. Et puis j'avais l'extraction, le lieu était sympa, il y avait un bel escalier, c'était dans mon budget. Voilà.
Et bientôt la terrasse, peut-être.
Ouais, peut-être. Ouais.
Et tu. C'était quoi avant ?
C'était un Boboon.
D'accord.
C'était un Boboon. Le mec avait ça depuis 5 ans. Avant ça, il y avait un resto espagnol. Et avant ça, il y avait un resto chypriote.
Ok.
Et le mec,
trop drôle.
Donc, il y a 20 ans, il est venu la semaine dernière pour
il
goûter.
Était ému.
Ouais, il était super ému, il m'a montré des photos et tout ça, c'était trop marrant, il m'a donné son numéro et tout, il était super content qu'il y ait un
resto chypriote
qui réouvre, donc trop marrant.
C'est pas que grec, c'est gréco-chypriote.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Taverna, c'était vraiment un projet, c'était ce projet que tu avais en tête en 2020 quand pas encore.
Ouais, c'était, enfin, cette cuisine-là, c'est vraiment une cuisine que j'aime. C'est une cuisine assez simple, mais qui les gens, enfin, aiment ça. On a envie de partager les plats, ça donne envie. C'est frais. Donc moi, c'est ça que j'aime. C'est cette cuisine-là que j'aime faire. Dans les consultings dans lesquels on a travaillé, enfin sur lesquels j'ai travaillé, c'était toujours des cuisines un petit peu. cuisine du monde, quoi, cuisine exotique par rapport à la cuisine française. Donc moi, j'aime, par exemple, j'ai bossé sur un projet mexicain, un projet asiatique, voilà, et ça, j'adore. J'avais du mal à travailler sur un bistrot français, c'est pas trop mon univers, et puis je pense que je serais pas très bon. voilà.
Par goût.
Ouais, c'est par goût. Et puis ma femme est franco-chypriote et donc je l'ai rencontrée aux États-Unis il y a plus de 10 ans et donc j'aimais déjà cette cuisine-là et enfin du coup j'ai encore plus découvert cette cuisine-là parce que ses parents ont une maison à Chypre et on y va tout le temps et donc et quand j'ai voulu ouvrir un resto c'était une évidence de faire ça. Ouais.
C'était vous étiez pas donc vous êtes associée avec ta compagne ou ici, enfin en tout cas elle a mis aussi.
Oui, elle travaille pas dans le restaurant là, mais c'est elle qui s'occupe par exemple de l'Instagram, de qui me, enfin c'est ma comment on appelle ça.
Ta binôme.
Ouais, c'est ma binôme, ma muse, tout ce qu'on veut. Et parfois elle vient m'aider quand j'ai une galère de personnel, etc. Donc de temps en temps elle est là. Après sinon elle vient pour dîner, mais ouais non, elle m'aide beaucoup, mais elle travaille pas forcément dans la cuisine. Ouais. Avec moi, tout ouais,
elle
ça.
A son, elle a son travail.
Elle a son
aussi,
boulot ouais. à côté, tout ouais. ça. Voilà, mais sinon, oui, c'était un projet qu'on a fait à deux, puisque elle m'a aidé dans tout, quoi.
Et cette cuisine, t'as réussi à complètement te l'approprier aussi. Elle t'a montré des choses, ou t'as goûté là-bas, comment...
Ouais, on a fait plein de tavernes là-bas. Ouais. Je regardais un petit peu sa maman cuisiner, les livres de recettes de famille et tout ça. Et puis après, moi, j'ai plein de bouquins de cette cuisine-là. Et puis, je regardais un petit peu ce qui se faisait. Je me suis un peu
inspiré
de tout ça. Et après, l'idée dans le restaurant, c'est pas de trop travailler les plats. C'est vraiment d'essayer de refaire ce qu'on a dans une taverne à Chypre ou en Grèce, mais avec un petit élément de modernité ou de modification, parce qu'on est à Paris, que si on fait la même chose, les gens ils vont pas apprécier, quoi.
Ouais, moderniser, c'est aussi à ta sauce, enfin.
Ouais.
Comme toi, t'aimes...
Ouais, voilà, c'est que soit ça va changer dans la sauce, soit l'aspect visuel, il va être un petit peu modifié pour... Y a aussi un aspect économique, c'est qu'on est à Paris, les loyers coûtent cher, tout ça, donc on peut pas faire les mêmes prix, la salade grecque ou le tarama comme il est en Grèce, pas cher, etc. Il faut payer les gens, il faut payer le loyer, il faut payer tout ça, donc il faut apporter un petit peu de modernité ou d'éléments de différenciation ou un truc un petit peu plus luxe dans le, je sais pas, tarama avec de la poutargue. Normalement c'est sans poutargue, mais là avec la poutargue les gens ils se disent ah ouais ça peut être sympa tout ça, et ok, du coup on peut justifier voilà, il faut trouver des choses qui permettent, enfin parce que tout le monde mange du tarama et il faut avoir quelque chose de nouveau,
la signature,
quoi. Ouais, voilà. Ouais.
Et comment tu... en tout cas, tu réadaptes aussi cette cuisine qui est quand même méditerranéenne et avec pas le même terroir, on va dire, que le terroir parisien. T'as réussi à l'adapter pour la faire vivre aussi en fonction des saisons et coller...
Ouais, alors donc,
au terroir d'ici.
Du coup, les fruits et légumes, c'est avec les primeurs de d'ici. Donc, l'idée, c'est de respecter au maximum le cycle des fruits et légumes et tout ça. Après, il y a des produits grecs qui n'existent qu'en Grèce et qu'on est obligé d'importer. Donc là, j'ai deux importateurs de produits grecs de très bonne qualité.
Tu penses à quoi, par exemple ?
La feta.
Ouais.
C'est un AOP. Donc, la feta... qu'on appelle pas feta mais fromage de brebis existe, mais c'est pas pareil. Donc voilà, le halloumi qui est un fromage AOP, AOC chypriote, ouais. Pareil, ça existe notamment en Turquie ou dans d'autres pays, mais ça s'appelle fromage grillé ou un truc comme ça. Ils peuvent pas l'appeler halloumi parce que c'est une appellation.
Ouais, appellation.
Donc ça, on est obligé de les importer.
T'as goûté aussi ce que font les fermes, j'ai un trou sur le nom, pas Nanina, mais un peu, j'ai un trou sur le nom, ils font aussi du fromage type halloumi.
Ah non, je connais pas.
En région parisienne, je sais plus. Mais bref.
Non, je connais pas. Ok, je me renseignerai. Après, j'ai un fournisseur qui s'appelle Profil Grec, qui lui source des super artisans. Donc, j'achète les olives de Kalamata, l'huile d'olive Kalamata, feta, des piments, des choses comme ça. Et voilà quoi. Après,
je pense à ta salade grecque où tu avais mis des tomates, mais des tomates que tu avais
tomates d'hiver,
que tu avais mis en conserve, je crois toi-même d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, voilà.
Pour pouvoir proposer aussi une salade qui suit les saisons.
Ouais, là en ce moment c'est betterave cuite dans le sel ou betterave au four. Il y a avec des sauces aux agrumes, oranges et tout ça. Il y a des salades de lentilles. Mavromatica, c'est une lentille avec un petit œil noir. Black Eyed Peas. Okay. donc ça avec des pickles et tout ça. Donc ça marche bien. Par exemple, là, printemps, été, on fait ce qu'on appelle dacos. C'est des petites biscottes de pain, un peu dures, sur lesquelles on met une pulpe de tomate avec plein de choses. Donc là, on le fait pas, mais on le fait avec de l'aubergine. Ça permet de changer dans différents trucs, mais.
Et ta pita, et ta fameuse pita.
Ouais, la pita. La pita,
frite.
Elle est en friture, ouais.
Cuite frite.
Ouais, elle passe 10-15 secondes, 10-15 secondes en friteuse, et après on la met un petit peu sur le barbecue pour renforcer un petit peu le côté croustillant. On la coupe en 4, origan, sel, et c'est parti.
Ça, c'est trop bon.
Ouais. Ouais.
Tu m'avais dit qu'il y a des personnes, des gens qui viennent, qui en mangent, et après tu leur dis que c'est frit.
Oui, il y a pas mal de personnes qui me disent.
Pendant Fashion Week.
Ouais, c'est ça. Ils en ont pris 5 ou 6. Ils me demandent, mais comment, vous la faites comment,
la pita ? Elle est trop bonne.
Ouais. Et donc là, après, souvent, c'est là, oula, je vais devoir aller faire du sport demain et tout.
Et ça, c'est ton petit secret ? Ou c'est ce côté frit, c'est pas classique ?
Le fait de la passer en friture, c'est que ça la cuit très vite d'un coup. On peut avoir un peu le même côté croustillant si je la passe au four, mais ça dure plus longtemps et puis ça sèche un peu. Alors que là, quand on la cuit en friteuse, l'huile rentre un tout petit peu dans la pita, mais pas trop. Du coup, ça lui apporte quand même un petit peu de, je sais pas, de moelleux en même temps, et c'est croustillant. Enfin, c'est
croustillant moelleux. Et pour revenir au fait que tu travailles. Plus ou moins, pas vraiment en couple, mais un peu... Enfin, non, en tout cas, t'as le soutien, on va dire, de ta compagne. Vous aviez déjà créé quelque chose, déjà, enfin, ensemble, il y a quelques années.
On avait monté, ça existe toujours, une marque de vêtements qui s'appelle Mireio. Mireio, ça veut dire Mireille en provençal, parce que moi, je viens du sud de la France.
T'as pas l'accent ?
Non, j'ai pas l'accent. Personne n'a l'accent dans ma famille. Ma famille vient du golfe de Saint-Tropez. Mireille, c'est le prénom de ma grand-mère. Et donc, on a monté cette petite marque
provençale.
Donc, l'idée, c'était de partir de pièces du vestiaire de ma grand-mère et de les retravailler pour proposer. Donc, la première pièce, c'était la vareuse de pêcheur. Et donc avec un imprimé provençal, donc l'atelier est à Paris, les tissus proviennent du sud, donc à côté de Tarascon, d'une entreprise qui existe depuis au moins 100 ans. Ils impriment au cadre, etc. C'est vraiment très ancien, et un savoir-faire qui est c'est une entreprise classée patrimoine du vivant. Donc c'est on avait fait ce projet-là.
Que vous continuez.
Qu'on continue. Ouais. On a fait des chaussures, on a fait des sacs, on a fait des gilets sans manches. On continue. Donc c'est petit, mais voilà, on fait tout ça tranquillement. Ça nous permet de rencontrer plein de monde, de faire plein de choses. Puis c'est hyper cool de travailler sur des vêtements, de les développer et tout. Voilà.
Touche à tout. Et en tout cas, le point commun, c'est vraiment la Méditerranée entre le restaurant, la marque.
C'est ça. Ça tourne. L'amour de la Méditerranée, ouais. Et tout ce qu'elle propose.
Et pourquoi vous avez choisi Paris finalement pour monter ce restaurant ? Enfin, t'as fait du consulting à Marseille, à Saint-Tropez. Vous avez pas eu envie de
on y pense toujours. Après, ma femme, elle bosse le luxe et la beauté, la mode. C'est un peu dur de trouver ailleurs qu'à Paris. Ça pourrait être quelque chose qui arrivera en deuxième partie, en deuxième étape. Pour l'instant, c'était Paris. Après, il faut se dire que Paris, c'est vraiment pour monter un resto, c'est quand même le lieu où il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de touristes. C'est tout. Si on fait les choses correctement, le resto il peut fonctionner et on peut avoir du monde, alors que dans d'autres endroits Marseille, c'est, maintenant, c'est devenu une énorme ville. Mais quand on a commencé le consulting, d'ailleurs, à Marseille, la vague des openings et tout, ça n'avait pas commencé. Enfin, c'était le tout début, quoi. Il y avait très peu de Parisiens qui ouvraient des trucs. Enfin, cette vague de Parisiens qui ont déménagé, ça n'avait pas encore trop commencé, quoi. Et bon, peut-être que je l'ai loupé, mais en même temps, enfin, je veux dire, pour monter un business là-bas, mais en même temps, il y aura toujours la place, comme il y aura toujours la place à Paris pour avoir des nouveautés et tout ça. Parce que les gens sont friands de nouveautés. Voilà.
Ça a tout de suite bien démarré, tu me disais, en tout cas,
Taverna,
un restaurant, ouais.
Ouais, bah Taverna, bon, les travaux ont eu un peu de retard, mais voilà, j'ai fait une première soirée avec l'anniversaire d'une amie, et ensuite, ça a bien marché. On a ouvert fin septembre, c'était la Fashion Week. Et comme à côté de Taverna, dans le 11e Marais, il y a tous les showrooms, les gens sortaient des showrooms, voyaient ce nouveau truc, il y avait du monde dehors et tout ça, donc ça a plutôt bien fonctionné assez rapidement. Avec le bouche à oreille et tout, on était plutôt contents et on a eu la visite du fooding. Enfin, ça, je l'ai su après parce que c'est la même amie qui a fait son anniversaire dans le mec à un restaurant de burger qui s'appelle Specimen m'appelle, me dit Paul, t'es dans le fooding et tout ça. Je lui dis mais okay. Enfin, je savais que le fooding était venu, mais je pensais que j'étais que sur le site internet, que j'avais juste un article, etc. Elle me dit non, là, il y a le guide qui est sorti, papier, t'es dedans, faut que va l'acheter et tout. Donc je vais l'acheter, et je vois que je suis dedans et tout ça, donc c'était génial et voilà. Donc mais c'est ils ont dû, je sais, enfin ça a dû être assez rapide parce qu'on a ouvert fin septembre et la cérémonie ça devait être mi-novembre,
un truc comme
ça. Ouais, voilà. Ouais. Donc en gros il y a eu un mois où ils sont venus dans ce laps de temps de un mois. Donc c'était la folie. C'est quand même assez cool d'avoir. Moi je me rendais pas compte de ce que ça pouvait apporter. Quand tu étais venu, on en avait parlé. Et effectivement, ouais, c'est quand même un joli sésame et un gage de sérieux et de qualité. Donc, j'étais trop content, quoi.
Et sur le lieu, c'est vrai qu'on sent que tout a, enfin, que c'est pointu et que il y a, enfin, tout a été pensé, la décoration, il y a plein de détails que vous avez imaginé vous-même, je crois, sur la déco. Même la table, la grande table en haut, tout en inox.
Ouais, en inox, ouais.
Ah, voilà, les portes, enfin, je sais pas comment t'appelles ça, des portes assiettes ou des.
Donc il y a dans la déco, il y a pas mal de choses qu'on a cherchées, soit à Chypre, soit en Grèce. Donc, par exemple, ce qu'on voit là-haut, là, c'est notre panier de mariage où la famille de la femme du marié danse avec, lui présente des choses, etc. Une cérémonie un peu tradie. Il y a plein d'éléments, donc les carafes en cuivre et en alu, c'est là où avant les Grecs mettaient le vin pour boire, etc. Donc c'est que des petits objets comme ça. La table a été dessinée par des architectes, de même que ces reposes assiettes, et ensuite elles ont été faites sur mesure. L'idée c'était d'allier tradition et modernité, de pas tomber dans le cliché grec que je supporte, enfin que j'aime pas, quoi, genre bleu blanc machin. Il y a pas de bleu blanc d'ailleurs en Grèce, il y a pas de restaurant bleu blanc mais ou même à Chypre, mais voilà, l'idée c'était de vraiment montrer aux gens, c'est par exemple là, donc c'est la dentelle de l'Efkara qui est un truc qui est en train de disparaître aujourd'hui, mais c'est classé au savoir-faire de l'UNESCO, ouais. Je sais plus comment on appelle ça. De casser un petit peu le côté inox moderne, mais en même temps très sympa avec tous ces
artisanal,
objets,
des objets artisanaux,
voilà, c'est ça, exactement.
Qui sont au final un peu anciens et très beaux aussi, qui sont détournés,
c'est
comme
ça.
Les assiettes de camping.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Enfin, est-ce que vous répartissez les choses ? Toi, tu fais la cuisine, la gestion aussi ?
Moi, je fais la cuisine, je développe les recettes, je m'occupe du personnel, des résas, parce que je ne sais pas, de Zen Chef et tout ça. Moi, ouais. C'est mon numéro de téléphone, qui est mon numéro de téléphone du resto et mon perso. Donc, si tu m'appelles demain...
Tu peux t'envoyer des petits messages.
Les gens, mais c'est marrant, parce que les gens, ils aiment bien avoir cette proximité. Ils connaissent maintenant, ils connaissent mon prénom, tout, ils m'appellent, ils m'envoient des SMS. Et j'ai mon petit carnet, je note avec mon stylo, donc
à l'ancienne
et tout. Mais les gens apprécient vachement ça, parce qu'ils ont, peut-être pas tout le monde, mais J'ai eu plusieurs fois des personnes qui me disent, faut vraiment que tu comptes, et des gens de la restauration ou du milieu de l'hospitalité, ça c'est assez marrant, qui m'ont dit, mais continue parce que ça c'est génial, ça c'est un peu chiant de réserver sur un site tout le temps, de mettre un numéro de carte et tout, l'empreinte bancaire et tout ça, donc essaie de garder ça comme tu peux. Donc moi ça va parce que j'ai un petit établissement. C'est pas possible.
C'est encore gérable.
Ouais, voilà. Mais quand on commence à avoir un énorme truc, c'est pas possible. Ou alors il faut une personne qui fait ça toute la journée. Et c'est, voilà, c'est, voilà. Mais donc, ouais, voilà, c'est.
À l'ancienne.
À l'ancienne, ouais. Et après, et ma femme, elle, donc elle gère toute la partie.
Communication.
Communication,
un peu,
ouais. Marketing, et les réseaux sociaux. Donc les photos, on les fait nous-mêmes en argentique.
Donc, ça, c'est toi qui les
fais. C'est moi qui les prends. Elle aussi en prend quand elle est là. Et donc, on a. Voilà, elle s'occupe un peu de la stratégie de tout ça. On fait du merch.
J'allais te demander, c'est elle qui a fait les suites.
On fait tous les deux, mais voilà, on a fait des suites, des gilets sans manches, des casquettes, des t-shirts. Ça marche super bien. Les gilets sans manches, ce qui est marrant, c'est que c'est des pièces vintage de l'armée grecque qu'on a récupérées. Ils sont verts comme le sol
ouais.
Et on les a fait broder. De part, j'en ai fait 2-3 pour moi parce que j'avais trop froid pendant l'hiver là. Et en fait, les gens aiment bien et on les voilà, on
les
vendait quelques-uns. Et moi, ouais, on en a même envoyé, je sais pas, en Corée du Sud, aux États-Unis. Ah oui. Ouais,
les gens, ils les achètent sur les réseaux sociaux.
Ouais, ou... ils t'envoient un message. Parce que là, aujourd'hui, je dois en envoyer à une fille dont le mari, une personne dont le mari a un restaurant grec à Chicago, à New Jersey, à côté de New York. Elle en a acheté une dizaine, toutes les couleurs.
Ah ouais,
ouais. Et c'est la troisième fois qu'elle commande. Donc c'est trop marrant.
Avec Marqué Taverna. Avec,
ouais, voilà. C'est drôle. Donc pour son cousin, sa tante, son mari, son truc, il me l'a shippé, j'en veux un autre et tout. Et j'ai une fois une personne qui est venue en acheter. Il est revenu le lendemain, il en a pris 2 ou 3. Il m'a demandé, alors ça m'était jamais arrivé, de lui dessiner un truc sur la casquette. Donc moi, je commence à dessiner à l'intérieur. Il me dit non, dehors, sur la visière. Je ne savais pas quoi écrire.
C'est,
ouais, c'était
fou,
trop marrant.
Hein, cet engouement du merch, ouais, c'est dingue. C'est incroyable.
Et ça crée aussi le branding du resto, ouais, et tout. Donc c'est important.
Une communauté aussi, ouais. Finalement, qui est, tu vois, complètement internationale par rapport à ce que tu racontes. Il y a un sentiment aussi d'appartenance un peu à son resto de quartier ou de sa communauté.
Ouais, c'est exactement ça.
De restaurant. Et
du coup, comme moi, c'est un petit resto, qu'ils ont mon numéro, tout ça, tout un peu est lié. Ils ont vraiment l'impression de faire partie de l'aventure. Quoi. Donc, Et les gens reviennent.
Beaucoup,
il y en a qui reviennent 5-6 fois, comme ça. Là, il y a une fille, là, elle est venue avec une fois sa sœur, une fois sa mère, une fois son père, une fois une copine. Elle est encore là samedi dernier. Enfin, c'est trop marrant. Quoi. Donc voilà, ça, c'est cool. On a plein de Grecs qui viennent aussi, donc ça, c'est sympa.
Ouais. Et la musique, jusqu'à la musique aussi. Enfin, c'est vrai que tu parlais de direction artistique tout à l'heure et aujourd'hui, c'est ça, c'est être chef, mais aussi être presque directeur artistique culinaire de son restaurant. Tu penses à tout ?
Ouais, moi, j'aime bien être maître un petit peu de tout et pas trop reposer sur d'autres personnes parce que j'étais pas mal déçu des prestations d'autres personnes. Ça peut être bien comme un peu compliqué parce que du coup, on fait pas trop confiance. Du coup, ouais, je pense que ce qui c'est cool de pouvoir faire et de la cuisine, mais en même temps proposer quelque chose de cool dans le restaurant, la bonne musique, que les personnes, le staff soient bien habillés, avec une tenue identifiable, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans un resto, il faut pas penser... Enfin, si, il y a des restos qui ne vont faire que de la super cuisine, mais bon, c'est vraiment un type de marché et tout. Moi, je suis pas sur ce créneau-là. Moi, je suis sur un créneau où il faut que le lieu soit sympa, bonne ambiance, un joli packaging, une bonne cuisine aussi, parce que si c'est pas bon, ça sert à rien.
Mais c'est un morceau d'un tout.
Oui, voilà.
Enfin, presque un petit... Enfin, pas un petit morceau, mais un morceau... aussi important que le reste.
Ouais, parce que bon, il y a par exemple il y a des restaurants gastro qui sont un peu vilains à l'intérieur, vieillots et tout, mais les gens ils vont aller parce que c'est un gastro qui vont avoir une expérience de fou et tout dans la cuisine.
Et encore, aujourd'hui, est-ce que t'as envie de retourner dans un resto où c'est bon mais tu te fais chier?
Non, pas trop, moi, pas trop, mais...
non, mais c'est vrai.
Non, je pense que voilà, il faut que... Quand on ouvre la porte du resto, il faut que la musique, elle soit cool, il faut que les gens soient... Le staff soit poli, bien habillé, que ce soit joli, que les plats soient jolis, que les assiettes soient jolies, enfin, il faut que tout soit sympa, quoi.
Donc, ça t'amuse, toi, de... enfin, en tout cas à cette échelle, d'avoir l'œil sur tout?
Ouais, j'adore. J'adore. Après, le point négatif de ça, c'est que si tu veux créer d'autres business et grossir, il faut être capable de déléguer et de faire confiance à d'autres personnes. Mais c'est moi, j'ai un peu du mal à...
À déléguer?
Ouais, parce que j'ai toujours l'impression que les gens font...
C'est moins bien.
Mais, non, je rigole, mais...
T'es là tout le temps, là.
Ouais, je suis là tout le temps et j'ai commencé un petit peu à faire travailler une ou deux personnes qui, pour me remplacer une fois ou deux par mois pour pouvoir passer du temps avec mes enfants et tout ça et penser un peu à la... Après,
t'as
moi, j'ai envie d'être là très, très régulièrement. Pardon ?
T'as mis des caméras ?
Ouais, non, non, non.
C'est comme les gens qui n'ont pas confiance en leur nounou.
Ouais, c'est clair. Non, j'ai pas de caméra, mais après, voilà... À la cuisine, c'est, encore une fois, c'est une cuisine simple, c'est pas compliqué à exécuter, j'ai tout préparé et tout ça, donc voilà, je vais toujours rester très présent dans le restaurant, mais voilà, peut-être une à deux fois, un ou deux services par mois, c'est pas beaucoup, hein, je vais me faire remplacer par quelqu'un pour souffler un peu, quoi.
Ouais. Ouais,
parce que sinon, les journées, c'est 9h, fermeture,
2 heures,
ouais, voilà, c'est ça.
Tu me disais, enfin, c'est vrai que t'as un côté touche à tout là. T'as les mains pleines de peinture. Tu viens de refaire la peinture chez toi entre deux services.
C'est un peu ça. Ouais.
Tu fais les photos du restaurant. Enfin, t'as d'autres dons cachés que tu aimerais nous dévoiler.
Ouais, la photo. Je me suis remis à la photo en argentique en 2017 pendant que ma femme était enceinte. Et donc ouais, ça c'est un truc que j'aime vraiment bien faire. J'aime bien faire plein de choses, j'aime bien tester plein de trucs, me renseigner sur plein de choses. Je serai jamais excellent dans un truc, mais j'ai envie de connaître plein de choses, de plein de trucs différents. Donc
avoir un niveau un niveau minimum dans plein de domaines.
De trucs, hein. Voilà. Donc voilà, on a fait des trucs de vêtements, un peu la photo, le resto, et voilà, j'aime bien faire, je suis assez curieux et je suis un peu hyperactif, donc j'aime bien faire plein de trucs tout le temps.
Le petit questionnaire, la relève au milieu. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la relève?
La relève, c'est la nouveauté, le renouveau dans un milieu qui peut-être s'endormait un peu et ça permet de dépoussiérer un peu tout ça. Comme ce que j'essaie un peu de faire dans le restaurant Taverna avec des classiques de la taverne grecque, mais masterisés au goût du jour pour que ça plaise aux gens. Voilà.
Ton nouveau kiff culinaire?
Y a un truc que j'ai trop aimé, c'est l'été dernier, quand j'étais à Athènes, que je suis allé acheter mes carafes en cuivre, là. un restaurant qui s'appelle El Essencia, qui est super, qui était trop bon. Ils font des choses vraiment hyper cool. Et j'ai mangé un melon avec une sauce à l'huile de caroubier que j'ai adoré. Et voilà, c'était le truc que je retiens.
T'as obsédé.
Ouais, que j'avais trop envie on partait le lendemain. Mais c'était trop simple. C'était juste du melon à couper, machin. Et c'était hyper bon, hyper frais. Il y avait un petit fromage. D'ailleurs, j'avais demandé au serveur de me noter le nom du fromage. C'était hyper bon.
T'as essayé de le refaire ?
J'ai pas essayé de le refaire parce qu'après, on est arrivé ici. Puis c'était plus trop la saison et tout ça. Mais je me suis acheté de l'huile de caroube. De caroube chez Chira, l'épice d'épice Chira. Et je me suis dit que j'allais essayer de faire un truc avec ça pour l'été prochain. Mais pour être honnête, après, j'étais à fond dans les travaux. Parce que c'est moi qui fais les travaux, plomberie, électricité, tout ici.
Ah oui.
Ouais. Donc entre avril 2023 jusqu'à maintenant. En vrai,
ouais, ça fait un an que t'es dedans, quoi.
Et donc j'ai rien, pas vraiment eu le temps de kiffer trop. Voilà. Donc je sais pas trop quoi te dire d'autre.
Ton livre de recettes secret.
Moi, ce que je me suis fait, c'est que je me suis acheté un bouquin, enfin un Moleskine, où j'ai pris en photo toutes les recettes que j'aime et les photos. Et je les ai collées pour me refaire un livre.
C'est ton propre livre de recettes.
Voilà, mais en mettant soit des photos. Parfois juste la photo parce que j'aime bien le visuel.
Juste inspiration
ouais,
un peu.
Voilà. Par exemple la recette pour me rappeler par exemple comment la personne procède. Et parfois en regardant une photo, une recette, t'en refais une autre et ça t'inspire. Voilà. Et donc je me suis fait une sorte de, comment on peut appeler ça, un recueil de multi-recettes, multi-photos. Et voilà, ça c'est un petit peu mon truc secret où
tu vas puiser l'inspiration là-dedans.
Ouais, voilà.
Ah, c'est cool.
Ouais.
Donc c'est un mélange de recettes de genre d'autres chefs, de
ouais,
livres,
de tous les livres de cuisine
famille,
que j'ai, que je vais feuilleter, de trucs de famille. Après j'aime bien chercher des vieux bouquins de cuisine sur la Méditerranée, sur la cuisine. Donc tu vas sur des sites. Parfois je me dis je vais jamais recevoir le site, il a l'air. ouais voilà. Et en fait tu les reçois parfois 3 semaines après, ils viennent dessus. Bref c'est marrant. Et ça peut être aussi sur des images Insta que je vois. Donc tu vois il y a pas de recette. Un mec qui a fait un visuel trop bien, je me suis dit, ah, ça peut être sympa, ce visuel-là. Pas forcément avec les mêmes ingrédients d'ailleurs, mais c'est juste comme la façon dont il a présenté le truc. Ou sur internet, ou je sais pas, je suis au resto, il y a un truc que j'aime bien.
Voilà, ça fait vraiment...
Ouais, je prends la photo et je me l'imprime. Je me le découpe, ouais. Je le colle dans le carnet.
Une technique découverte récemment ou redécouverte?
Ben là, j'ai découvert. Ouais, si, récemment, j'ai essayé de chercher un truc où. Avec un instrument de cuisine spécialement chypriote que personne ne pourrait connaître. Et en fait, ils font des sortes de pâtes avec une sorte de tige de roseau en faisant rouler. Donc, il n'y a pas de vidéo sur Internet et tout, donc c'est vraiment un truc à l'ancienne. Et donc, j'ai demandé à ma belle-mère d'aller voir les dames au village pour voir si elles ne pouvaient pas trouver ce morceau de bois. Et avec la tige en bois, elles font rouler sur la pâte avec le morceau de bois pour faire des sortes de petites tiges. C'est un peu bizarre la façon dont j'explique. Mais donc, voilà, j'ai découvert ce truc-là il y a 2-3 semaines. Parce que quelqu'un est venu, un journaliste est venu et m'a posé la question. Ouais, tu connais pas des objets
Léo Bourdin
ouais.
Non.
Ouais, si, ouais, c'est lui. Est-ce qu'il est venu il y a pas longtemps et il avait fait un article sur les tamis là, qu'on voit là, qui peuvent être soit des tamis, soit des. Pour faire des pâtes aussi. Et il m'a dit, ouais, et à Chypre, il n'y a pas des objets. Ça. J'avais pas de réponse à lui donner parce que j'avais pas d'idée. Et tout ça, j'ai demandé à ma belle-mère.
Elle t'a parlé de ça.
Voilà, ouais.
Donc c'est une technique pas encore découverte, mais qui était en recherche.
Ouais, quand je suis en recherche, donc elle est missionnée pour me trouver ça et que me trouver le morceau de bois.
T'as déjà goûté des choses faites avec Pas encore.
Non, j'ai pas goûté. Et c'est vraiment, ça se fait dans quelques villages.
Donc c'est pas pointu.
Ouais, voilà. Ouais. donc c'est un truc à voir.
Mystérieux.
Ouais.
Le chef ou la chef montante à suivre?
Il y a une chef que je regarde assez régulièrement parce que c'est pas mon type de cuisine et c'est et j'aime bien ce qu'elle fait et encore une fois moi j'aime bien regarder des trucs où je vais pas faire que je vais jamais faire et que je connais pas bien, c'est Justine Pruvot. Et je regarde un petit peu tous ces trucs sur le végétal. Moi, je fais pas mal de végétal, mais j'ai quand même une ou deux viandes où elle fait vraiment que ça. Et puis, voilà, ses associations. Je trouve ça. Elle a bossé dans des belles maisons avec des personnes qui ont fait des trucs assez cool et tout. Donc, je regarde souvent ce qu'elle fait. Je trouve ça cool. J'aime bien regarder les gens qui vont faire des trucs totalement différents de moi. Je regarde souvent des vidéos, des découpes de poissons, des sushi masters et tout ça. Ça, je trouve ça impressionnant.
Un nouveau compte Instagram que tu veux nous faire découvrir?
Ben là, en ce moment, sur Insta, je suis à fond dans en rien à voir avec la cuisine, mais dans les objets, design, le mobilier vintage et beaucoup de structures tubulaires en acier ou inox. Donc des trucs comme ça quoi. Ça s'appelle VNTG, donc vintage. Il y a très atyptique, il faudrait que je te redonne le nom exact, mais il y a pas mal de sites comme ça que je regarde parce que j'aime bien le mobilier. J'ai envie de tout changer chez moi.
C'est pour ça que je croyais que t'allais dire au restaurant.
Non. Après, il y a un truc, il y a une fille que je connaissais pas et qui est venue au restaurant à l'ouverture et j'adore ce qu'elle fait. Elle s'appelle Alix Lacloche. Je connaissais pas du tout au départ. Ouais. Donc, je l'ai rencontrée ici au resto. Et j'adore. Donc, j'adore ses installs et tout ça. C'est très, très cool. Elle habite à Athènes.
Je savais pas qu'elle avait habité à Athènes. Ouais.
J'aime vraiment bien son.
Ouais, la frontière du design culinaire et des installations, c'est cool ce qu'elle.
Ouais, j'aime vraiment bien. Ouais. Voilà.
T'as ta place aujourd'hui?
Ah ouais, je me sens. J'ai l'impression que j'ai fait la première étape de.
Ta réorientation.
La deuxième étape, c'était formation. Et la première étape, c'était formation. Deuxième étape, c'était ouverture du projet. Donc là, ça fait bientôt 5-6 mois. Donc je me sens à ma place. Je suis plutôt content. Il y a du monde. je peux payer les bills, les factures, donc c'est cool. Et après, l'idée, c'est de continuer à fidéliser une clientèle, à faire grossir le truc et toujours proposer vraiment des trucs quali, que les gens soient contents, quoi.
Voilà. Et t'es bien en cuisine?
Je suis bien, j'adore.
T'adores?
Ouais, ouais. J'ai mon socle de cartes qui va jamais changer, ce sera toujours la même chose. Moi, j'ai envie que le lieu, ça devienne... j'ai pas envie de... Enfin, ouais, une
institution
grecque à Paris, parmi d'autres. Hein. Mmh. Mais que voilà, t'as envie de te faire un super tzatziki ou Tirokaf Tiritarama, tout ça, bah voilà, tu sais que tu peux aller chez toi. Chez moi, à la taverna, et voilà quoi. Il n'y a pas beaucoup de restaurants grecs à Paris. Là, il y a quelques jours, il y a Théodoros qui a un restaurant avec sa maman qui s'appelle Marias.
Je sais pas si
tu connais pas.
Non.
Donc là, c'est pas très loin d'ici, c'est dans le 11e, il est venu il y a la semaine dernière, et je discutais avec lui qu'il n'y avait pas beaucoup de restos grecs à Paris. Lui, enfin, avec sa maman, eux, ils ont plus une orientation cuisine traditionnelle, de famille, cuisine de la maman et tout ça. Et donc je trouve ça cool parce que il y a Etsy qui est, je trouve, plus bistrot. Maintenant ils ont Louzeri, mais j'ai jamais testé. Ouais, voilà.
Mais, ouais, c'est plus bistronomique, presque cuisine. Ouais, je vais pas dire d'auteur, mais un peu dans cet esprit,
ouais, voilà.
En tout cas.
Donc ils ont leur univers. Ouais. Donc Théodoros avec Marias qui ont donc la cuisine de la grand-mère, on va dire. Donc très quali et tout. Après il y a Philakia, le grand café d'Athènes, qui ont leur univers, sandwich et tout ça aussi. Brasserie grecque. Et puis il y a moi avec la taverne, quoi.
Et comment tu te présentes quand on te demande ce que tu fais?
Je dis que j'ai un restaurant, que je suis cuisinier, voilà.
Chef, cuisinier.
Cuisinier. Ouais. C'est la dernière fois mon fils, il y a eu des grèves là, il y a 2-3 semaines, donc il n'est pas allé à l'école, il est venu là.
Il est venu là.
J'ai mis là où t'es assise, il était là pendant la journée avec des coloriages et tout. Et à un moment donné, pendant le service, il me dit ce que je peux venir t'aider. Donc j'ai dit oui, je lui mets son tablier, etc. Il me dit comment je dois t'appeler, papa ou chef. Et donc, je lui ai dit, comme tu veux. Et du coup, il m'a appelé chef papa. C'était trop marrant.
Chef papa.
Moi, je fais de la cuisine. Donc, je suis cuisinier. Et après, je gère le resto. Donc, voilà.
Le conseil, ça te manque ou...
Le conseil financier ?
Ouais, enfin, la finance.
Ça me manque pas. Après, j'ai pas arrêté parce que j'aimais plus ça. Je sais juste que j'avais envie de faire autre chose. Peut-être que je referais ça un jour dans ma vie. En vrai, je pense pas, mais c'est un métier que j'aimais bien, qui était hyper intéressant, parce que je faisais beaucoup d'analyses, il fallait que je me renseigne sur plein de choses et tout. C'était cool.
Mais aujourd'hui, c'est un travail beaucoup plus physique.
Ouais, beaucoup plus physique. Après, moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là, parce que je suis un peu hyperactif, comme on l'a dit tout à l'heure, et je fais toujours mille trucs. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup dormir et tout, donc ça, pour ça, c'est pas un problème. Mais non, le conseil me manque pas. Après, ce que j'ai aimé avant d'ouvrir le resto, c'était de faire des consulting ou des events. Ça, j'ai vraiment adoré. C'est un truc que j'aimerais continuer à développer à côté du resto. Parce qu'en fait, tu rencontres un max de monde, il y a plein de synergies dans les différents projets que tu fais ou passé et futur. Et ça, c'est un truc que je trouve trop cool. Et c'est quand même assez rémunérateur par rapport à un restaurant où il y a plein de frais. Et donc, il y a d'ailleurs plein de chefs qui ont leur resto, qui font du conseil à côté, qui se rémunèrent principalement sur le conseil et pas. Donc ça,
voilà. C'est sûr qu'en une soirée, tu peux faire le chiffre d'affaires du mois presque. Quel est ton quotidien aujourd'hui ?
Quotidien, réveil à 7h, je m'occupe des enfants avec ma femme le matin, je les amène à l'école, 8h20, donc tout est millimétré, je prends mon scooter, je viens ici direct, je réceptionne les commandes, je range tout et j'attaque la mise en place. 11h, je fais le ménage pour préparer le service de midi, service jusqu'à midi à 14h30, renettoyage.
Ensuite, sieste
non, pas de sieste. J'ai fini, on va dire, vers 15h30. Là, peut-être que j'ai une course à faire ou un truc que je vais faire, ça vite fait. Et ensuite, de nouveau mise en place pour le soir. 18h, nettoyage. Et 19h, c'est reparti. Quoi. Et voilà, ça, c'est le quotidien. Dimanche, samedi, je bosse pas. La journée, j'arrive vers 15-16h. mise en place. Dimanche, je bosse pas. Lundi, je fais la mise en place, comme ce matin. Et, voilà. Et les semaines s'enchaînent, et voilà.
Ouais. Mais t'aimes ça, cuisiner?
Ouais, ouais, j'adore. Ouais. Les gens... En fait, ce que j'adore, c'est... J'ai tous les jours, je me demande toujours si les gens vont aimer à chaque jour. Tu vois, je me dis... En fait, les recettes vont pas changer. Hein, donc, mais tous les jours, je me dis, est-ce que les gens vont sortir et contents, etc. Et ça, à la fin de la journée, ça apporte un maximum de satisfaction parce que les gens sont contents, ils sortent, ils se touchent le ventre en mode on est repu, tout ça. Ça fait trop plaisir de voir que les gens ils ont passé un bon moment, qu'ils ont aimé, qu'ils reviennent, qu'ils envoient leurs copains. Il y a plein de Grecs qui viennent et qui reviennent, donc ça c'est aussi cool.
C'est important pour toi ça, ouais, d'avoir la reconnaissance
parce que déjà ils sont trop contents que ce soit pas forcément un Grec
tradi.
Non mais qu'ils fassent la cuisine, ils sont encore plus dingues que ce soit. Les gens me disent alors t'es Grec et tout, non c'est pas moi, c'est ma femme et tout. Ah ouais, putain, mais c'est génial et tout. Voilà. Donc ça c'est cool, mais je trouve ça cool parce que. Tu vois, par exemple, dans les restaurants italiens, il y a plein de fois où les mecs disent « Ouais, ma grand-mère, elle fait les polpas mieux que les polpettes, mieux que ça. Bah, » J'ai pas trop eu de commentaires comme ça. Les gens m'ont dit « Ouais, j'adore ce que fait ma mère, mais là, c'était vraiment fou. » Ou c'était vraiment différent.
C'est différent aussi. Ouais. Tu te mets pas sur le registre de la cuisine de la maison. Donc, c'est ça qui est, je pense, cool aussi, où c'est assez différenciant et... Ouais. Assez proche des goûts, enfin, c'est à la fois des goûts identifiables et grecs, mais avec ta vision aussi et des produits de saison et plein de choses. Mais
c'est ça, donc c'est assez plaisant. Ouais.
Quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent entreprendre dans la food?
Bah, il faut le faire à fond, faut pas penser que c'est un métier qui est facile et que voilà, il y a plein d'erreurs qui sont très enfin que tu peux commettre très rapidement et ça peut te planter très vite. Ça demande quand même un investissement personnel ultra important et financier important. Faut penser à tout, il faut se former avant ailleurs. Pas hésiter à poser des questions, se renseigner à max. Moi ce serait ça plutôt. Enfin, faire une grosse analyse avant.
Et prendre un peu de temps aussi, tu disais.
Ouais, prendre son temps.
Du temps, au moins, toi, ça t'a mis quand même 2-3 ans. Ouais. Enfin, 3 ans, quoi.
Ouais, parce que moi, je venais pas de ce milieu-là non plus. Mmh. Je voulais me former avant et acquérir des compétences et tout ça. C'est quand même assez... Enfin, tu vois, je me dis, en 3 ans, j'ai quand même fait pas mal de trucs.
Et en même temps, c'est long et c'est rapide quand même avant d'ouvrir son restaurant.
Ouais, c'est à la fois long pour ouvrir un restaurant, parce que par exemple, t'as des gens qui ouvrent en 6 mois, ils font... Mais bon, après, moi, j'ai fait...
Toi, tu voulais être en cuisine aussi.
Je voulais être en cuisine. L'avantage d'être en cuisine, c'est que je suis pas obligé de chercher un chef, et le style, le chef me claque dans les doigts, bah, c'est moi, en fait. Donc, j'ai pas ce problème-là, tu vois.
Pas toi-même.
Mais l'inconvénient, c'est que effectivement, au départ, si je suis pas là, il y a pas de resto, tu vois. Mm. Et après, moi, le resto, je veux pas que je veux que ce soit Taverna, que ce soit moi, Paul-Henri ou machin, je m'en fiche. Moi, c'est pas moi que je veux faire monter. C'est le resto, tu vois.
L'identité du resto.
Ouais, voilà. Ouais. Parce qu'il y a des restos qui sont très attachés à une personne.
Ouais.
Et quand cette personne, elle s'en va, après le resto, c'est pas ce que j'ai envie de faire, tu vois.
Tu vas devoir te prendre du recul petit à petit.
Ouais, voilà, petit à petit, mais après tout est fait.
Moi, c'est le début, tu vois, encore.
Pour que ça soit, pour que ça se fasse tranquille, donc.
Ouais. Et t'as pas eu envie de monter le Big Mama Grec, par exemple?
Non, parce que, enfin, moi j'aimerais, tu vois, à horizon 10 ans, avoir 2-3 affaires ou 4 ou 5 ou je sais pas, mais pas de. J'aime pas le concept. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas trop mon kiff, les chaînes ou esprit chaîne. Moi, si j'ai envie d'avoir plusieurs restos, faut que ce soit à chaque fois une adresse assez singulière. Enfin, il y a un groupe à Londres qui s'appelle JKS, je sais pas si tu connais.
Non.
Ils ont, je sais pas, 10 ou 15 restos. C'est un gros groupe, mais à chaque fois, c'est par exemple un restaurant sri-lankais, très travaillé, un restaurant de cuisine anglaise. St. John's, restaurant,
oui.
Tu connais
ouais. Oui, oui.
Voilà, c'est le groupe qui a ça.
Ah, d'accord.
Ils ont Beren Jack. Je sais pas si tu connais.
Non.
Ouais, c'est vraiment. Ouais. Regarde sur internet, tu verras leur resto, c'est super cool. À chaque fois, c'est soit des restos de chefs, soit des restos identitaires, on va dire. Tu vois, Sri Lankais, cuisine indienne, Sri Lankaise, anglaise, etc. Et à chaque, tu penses pas que c'est un groupe derrière. En fait, c'est un groupe avec une grosse structure et tout, machin. Et moi, si jamais je dois me développer, c'est plutôt vers là que j'ai envie d'aller. Ouais. Quoi. Après, j'ai un projet je réfléchis pas mal à ça en ce moment. C'est tout ce qui est cuisine outdoor et tout ça, j'adore.
Dans la forêt.
Ouais. Il y a trop un truc à faire là-dedans. Ça existe dans d'autres pays, en Grèce d'ailleurs, ou en Angleterre. Il y a des chefs qui ont monté des business là-dedans. Et ça, moi, je suis sûr que ça marcherait trop bien ici.
À suivre. Ouais. Et l'idée d'aller en tout cas dans d'autres pays méditerranéens, enfin en tout cas de développer des choses assez pointues sur c'est peut-être ces territoires méditerranéens.
Ouais, voilà. J'adorerais travailler sur des projets, tout ce qui est cuisine par exemple palestinienne. J'ai plein de bouquins là de ça, c'est pas très connu, c'est assez ouf. Il y a la cuisine mexicaine que je trouve incroyable. Il y a pas beaucoup de restaurants comme ça à Paris. Il y en a beaucoup à New York ou à Londres, et ça cartonne et tout. Il y a quelques trucs à Paris, mais c'est pas, il y a pas non plus maximum de choses. Tout ce qui est Sri Lanka, il y a une grosse communauté à Paris, et c'est des gens si on leur donne si on les associe à un projet, quand je dis associé, c'est juste pas pour bosser, mais associé réellement, c'est un peu ils sont partenaires du projet, tout ça. Il y a des trucs de dingue à faire, et puis c'est des cuisines que les gens adorent. À Paris, les restaurants indiens ou sri lankais, souvent c'est des traiteurs, des boui-boui, là, mais il n'y a pas eu encore trop d'ouverture. Voilà, avec un endroit qui est beau, qui est avec une belle déco bossée,
montrer une autre image aussi de ces pays-là et plus moderne et
ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a plein de donc moi, si je dois continuer, c'est plutôt dans ce type de cuisine que j'aimerais, dans ces cuisines-là que j'aimerais bosser, et cuisine grecque, pourquoi pas continuer, peut-être agrandir ici ou quoi, on verra après quoi, mais voilà.
En tout cas, tu te vois continuer en cuisine.
Ouais, je me vois continuer en cuisine. Si ça marche, prendre un peu de hauteur et gérer plus des affaires, mais toujours avoir le pied dans la cuisine. Admettons que je dis n'importe quoi, qu'à horizon 5-6 ans, j'ai 2 ou 3 business. Deux jours dans la semaine, je m'occupe de gérer mes business. Il y a 2 jours où je fais quand même
la cuisine.
Je fais 2-3 services dans les restos. Parce que ça, c'est important quand même de voir un peu ce qui se passe, d'avoir des remontées de terrain. Enfin, personnellement. d'avoir un rôle un peu hybride entre chef d'entreprise, gestionnaire et chef cuisinier. Voilà. Ouais.
Dernière question, une recette. Est-ce que tu nous donnerais une recette taverna facile à faire à la maison ?
Ouais, facile à faire à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un truc qui marche bien, les gens aiment bien en ce moment, c'est le tiro cafetéri.
Ouais.
Donc, tu achètes de la ricotta, de la feta que tu émiettes, tu mets un petit peu de yaourt grec, tu le mélanges. Tu peux faire. Tu mets
moitié feta, moitié ricotta ?
Tu mets moitié, on va dire 100 grammes de ricotta, 100 grammes de feta et 20 grammes de yaourt grec. Ça apporte un peu de crème, mais pas trop, parce que sinon ça va vraiment faire ça va être trop liquide. Enfin, moi j'aime bien quand il y a un petit peu de texture. Donc la feta, tu l'émiettes, mais pas trop, comme ça t'as un peu des morceaux, tu croques. Enfin voilà. Dedans, tu mets des poivrons marinés. Donc soit tu les fais toi-même, soit tu les achètes tu peux acheter des poivrons marinés. Tu les coupes en lamelles, en brunoise, ou tu le mixes pour faire une pâte. Enfin, une sorte de. Tu mélanges tout ça. Donc si tu les fais en lamelles ou en brunoise, ça va rester un petit peu blanc et rouge. Si tu fais une pulpe de poivron, ça va colorer ton tiro cafetéri, va devenir rouge. Et après, tu peux mettre des graines, genre graines de coriandre, de fenouil grec, que tu torréfies, tu le piles. Tu le mets dedans, ça te fait un petit dips qui est facile à faire et qui est frais, qui est bon.
À manger avec la pita.
Ouais. La pita, tu peux acheter des. Après la pita, tu vas dans une épicerie orientale, tu achètes de la pita ou les pitas libanaises. Là, il y a un fournisseur pour tout Paris. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ce qui est pas mal, c'est que tu prends ces trucs. Tu peux faire pour l'apéro chez toi. Tu les mets au four. Ça va. Donc elles sont soft au départ. Tu les mets au four et ça va devenir des sortes de chips. Un petit peu d'origan et sel. Ouais. Tu sais, c'est des pitas très fines que tu peux rouler pour faire
des sandwichs un peu. Sandwich. Vraiment, ouais, c'est hyper fin.
Ouais, hyper fin. Ouais. Et donc ça, tu les mets au four et ça te fait de la pita crispy. Ouais. Et avec ce dips, c'est trop bon, quoi. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était Paul-Henri Bayard de Taverna. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous à Paris dans sa taverne gréco-chypriote, la bien nommée Taverna, donc située au 56 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description de l'épisode et évidemment le suivre sur Instagram sur ses comptes taverna.paris et paulmcbt. Vous pouvez réécouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site agence-larelève.com et surtout nous suivre sur Apoil Podcast et agence_larelève sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Apoil.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners, so there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.